C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on va passer au premier sujet avec nos commissaires. Et c'est une question très simple. Est-ce que la santé publique est trop prudente actuellement quand on fait des comparaisons ailleurs dans le monde pour justement assouplir les mesures sanitaires? Luc?
Mais je dirais que non, non à cause des circonstances. C'est sûr que si tu regardes les mesures comme telles, tu les compares avec d'autres pays, tu peux dire oui, c'est trop sévère. Surtout que le Omicron n'est pas fatal pour une grande partie de la population. Mais on a un système de santé, c'est celui qu'on a au moment d'entrer en crise, un système de santé avec peu de lits, avec peu de personnel, et donc, par rapport aux autres pays. Et donc, il faut s'adapter à ça, c'est ça notre réalité, là. À moins de dire, on va les laisser mourir, mais ce ne sont pas les valeurs sur lesquelles sont appuyés notre système de santé. Donc, si on se dit, on traite chaque personne qui en a besoin, avec des soins de catégorie A, ben ça veut dire que on est obligé d'avoir les mesures qu'on a pour plusieurs raisons. D'abord, la baisse des hospitalisations sur laquelle on aurait pu s'appuyer pour libéraliser les mesures, elle est trop faible. On a juste 14 hospitalisations en moins, c'est bien, ça veut dire que si c'est une tendance qui se maintient, ça serait formidable. Oui, il reste qu'on a quand même 3400 hospitalisations là. On regarde à côté au sud, la remontée des cas à New York après deux semaines de baisse, il y a eu des baisses puis tout à coup, oups, ça se met à remonter. Est-ce que ça veut dire que nous, ça va être pareil? Est-ce que la baisse, elle est engagée pour rester? On peut pas l'assurer. Ensuite, il y a Legault qui peut pas se permettre encore une fois d'être optimiste puis après ça de dire ben j'ai été trop optimiste puis je corrige là, ça marcherait plus, sa crédibilité serait en cause. Puis la dernière raison, c'est le taux de vaccination de troisième dose est juste à 36%. Ça permet pas de dire qu'on sort de crise avec, on voit la lumière au bout du tunnel avec un taux comme celui-là.
Nathalie.
Mon Dieu, qu'on aimerait avoir une boule de cristal. Hein. Pour prédire l'avenir, parce que là, on joue au yo-yo depuis quoi maintenant, 2 ans? À ta question, Paul, est-ce que la santé publique est trop prudente? Moi, j'ai envie de te dire, elle serait plus permissive si notre capacité hospitalière était plus élevée. Le texte, en passant, qui a été publié hier par le journaliste Vincent Brousseau-Pouliot, là, était extraordinaire, parce que là, maintenant, on a des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer. Ça nous permet de mieux comprendre la dynamique pandémique avec laquelle on compose le Québec, une dynamique qui semble hors norme par rapport à d'autres endroits sur la planète. Et juste, je rappelle les chiffres, le pourcentage des lits d'hôpital occupés par des patients COVID au Québec, 21% par rapport à 13% chez notre voisin ontarien, 16% en Ontario, en France, 7%. En France, hier, ils ont, Jean Castex, le premier ministre, a annoncé ce qu'on appelle un plan d'assouplissement sanitaire en disant, voici en février, 2 et 16 février, voici à quoi vous pourrez vous attendre, entre autres pour ce qui est de certaines mesures, dont le masque. Ce qui serait souhaitable au Québec, et je ne sais pas si c'est faisable, mais c'est d'avoir un peu plus de prévisibilité. Là où je te rejoins, Luc, c'est de dire, ben là, le premier ministre, il ne peut pas effectivement trop s'avancer parce qu'il s'est déjà fait taper sur les doigts. Cuillère de bois, là, il s'est déjà fait taper ses doigts, le premier ministre. Alors, il est très, très prudent. Politiquement, il a été échaudé. Cependant, est-ce que la santé publique, elle, ne pourrait pas davantage s'avancer le bout du nez pour partager avec nous ce qui pourrait ressembler à une espèce de calendrier d'assouplissement sanitaire? Je pose la question, je ne sais pas si... Luc Boileau était à ton micro, oui. Paul, un peu plus tôt. Je ne sais pas si...
Ce que j'ai compris de l'entrevue, c'est que, d'abord, la tendance observée s'est confirmée encore avec les chiffres qui vont être rendus publics ce matin. Ça, c'est un. Deux, la question était la suivante. Est-ce que vous avez assez d'outils ou serez-vous en mesure la semaine prochaine d'avoir une idée du calendrier de déconfinement? La réponse est oui. Il pense, mais tout ça peut basculer, là. Si on se ramasse avec l'effet des écoles, c'est un tsunami, c'est autre chose. Mais lui, puis je pense que, m'a donné mon impression très personnelle, là. Le premier ministre Legault, hier, a constamment, ou presque, passé la rondelle au directeur de la santé publique en disant: c'est lui qui décide que les écoles vont rester ouvertes. C'est lui qui décide que les restos peuvent pas accueillir les clients dans les salles à manger, que les gyms sont fermés. Politiquement, c'est pas moi qui vais manger le coup de bâton tous les jours.
Hier,
c'était ça, là. Docteur Boileau, voulez-vous répondre?
En même temps, Paul, le premier ministre ne peut pas brader l'autorité de la santé publique. Il ne peut pas le faire publiquement parce que politiquement, ce serait extrêmement périlleux. Il faut juste se rappeler que la santé publique, depuis le début de la pandémie, c'est notre phare dans la tempête. c'est grâce à la santé publique, à ses experts, à ses analyses de toutes sortes qu'on a réussi à emprunter une voie pour minimiser l'impact de la pandémie des cas dans notre vie.
Luc, moi, je pense que la santé publique va aussi être réinventée. Là. Je pense qu'il va falloir discuter à nouveau de l'indépendance de la santé publique, puis parce que c'est en bout de ligne le premier ministre qui prend les décisions. On a vu le premier ministre repousser certaines décisions. On se rappelle que Arruda était pas pour la fermeture des restaurants et des musées lors de la deuxième vague. C'est M. Legault qui a demandé ça. Après ça, la santé publique a contredit M. Robert sur l'aération dans les écoles en disant « Non, c'est pas vrai que le protocole que vous proposez a été confirmé par la santé publique. On l'a juste reçu. On vous a envoyé un acte de réception, c'est tout. » Alors, tu sais, il va falloir réinventer ça, puis il va falloir qu'il se positionne en disant « Est-ce que la santé publique a le droit de s'exprimer publiquement? Est-ce que la santé publique a le droit d'avoir ses propres consultations? Ou est-ce qu'elle est au service du premier ministre, tel un sous-ministre? » Parce que pour l'instant, c'est ça. Alors, il a beau y passer la rondelle, on sait que c'est lui qui tient le bâton, puis que c'est lui qui décide en bout de ligne. Et il nous en a donné la preuve à plusieurs reprises. Quoique, il n'est pas totalement à blâmer, là. Je veux dire, souvent, il a écouté la santé publique, mais quand même. Je pense pas qu'on peut juste blâmer la santé publique. La santé publique est bien sévère au Québec. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, j'y peux rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On l'a vu contredire des fois des décisions de la santé publique. Moi, j'aimerais dire qu'au-delà de blâmer ou pas la santé publique. Moi, c'est plutôt le système de santé que je blâmerais et j'aimerais qu'on ait une réponse à quelque chose. Parce que moi, je continue d'être mobilisé. Là. Je me dis, le gouvernement a fait plein d'erreurs, on les connaît, tu sais, l'aération dans les écoles, les tests rapides. Moi, je pense qu'il fallait donner la vaccination obligatoire aux 60 ans et plus. En tout cas, quel que soit ce qu'on reproche au gouvernement.
Heureuse de te l'entendre dire, mon cher Luc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Vaccination obligatoire. Ben oui. Moi, c'est même 50 ans et plus parce que c'est à partir de cet âge-là que les gens sont dans les hôpitaux. Exactement. Mais ben, hier, le premier ministre a parlé de refondation du système de santé. Ça a dû te réjouir.
Oui, mais il faut voir qu'il en parlait comme l'application du rapport Castonguay. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si on est contre, même si on critique le gouvernement, là, en ce moment, il reste que les lits sont pleins puis qu'il y a des gens qui meurent. Alors, pourquoi ils meurent? Moi, j'aimerais vraiment, tu sais, fait 3-4 fois que je pose la question à des médecins, je les pose en ondes, etc. Le premier ministre dit que c'est une distorsion statistique. Il a raison, c'est une distorsion statistique. Par exemple, on l'a su par des articles fouillés du New York Times qu'il y avait eu beaucoup plus de morts à New York que le nombre de morts affiché parce que tous les morts ne sont pas déclarés puisqu'ils ne se présentent pas à l'hôpital. Il y a aussi la comorbidité. Il y a aussi le vieillissement. Mais dites-nous, là, dites-nous à quelle bête on fait face. Parce que c'est pour ça qu'on doit aller se faire vacciner. C'est pour ça qu'on doit continuer à faire des efforts. C'est parce qu'il y a des morts. Alors, expliquez-nous là, pourquoi il y en a plus au Québec. Puis comment on va faire pour que ça
réussisse? J'ajouterais dans ton interrogation une autre équation, la façon dont on compte les décès ici. C'est comme si le Québec, je parlais tantôt, c'est comme si on était hors norme par rapport à d'autres endroits sur la planète. C'est toujours ici plus, des mesures plus sévères, plus de mortalité, plus de cas. On a évidemment la capacité hospitalière étant ce qu'elle est, mais effectivement, on a l'impression que les gens meurent davantage au Québec. Pourtant, j'ai pas l'impression que,
Le Journal de Montréal disait ce matin, puis comme en référence aux propos de François Legault hier, qui dit ce qu'on regarde surtout, c'est la surmortalité. Autrement dit, si tu as 90 ans puis que tu as des problèmes, des maladies chroniques, puis tu attrapes la COVID, bien, officiellement, tu es sur la liste des COVIDiens là, qui sont décédés, mais c'est pas la COVID qui t'a emporté. Là. Tu serais mort probablement 2-3 semaines ou 2-3 mois plus tard. C'est un peu pas mal ça la différence. On va s'arrêter pour la pause et au retour, vendredi, rapport des commissaires.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport des commissaires pour la semaine, c'est Nathalie qui commence.
Oui, catégorie « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? » Et j'ai nommé l'arbre décisionnel. Honnêtement, c'est assez spectaculaire. Le contexte est suivant. Le gouvernement émet une consigne pour les parents. Si votre enfant a des symptômes de la COVID ou s'il devient un cas de COVID, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, la note est très bien faite. C'est sur une page. C'est vraiment très, très simple. Mais, imaginez-vous donc qu'il y a des centres de services scolaires et des CIUSSS qui ont décidé de compliquer la patente. Et Alexandra, qui travaille avec nous, Paul, m'a fait parvenir un certain nombre d'arbres décisionnels. Imaginez que le centre de services scolaires des Hautes-Rivières, ils ont trouvé le moyen de faire 4 pages. Ils ont pris la page du gouvernement, puis là, ils ont fait 4 pages avec ce fameux arbre décisionnel. Même chose du côté du CIUS Montérégie Centre. Ben, eux, ils ont fait un arbre décisionnel qui contient 14 tableaux avec autant de flèches. Écoute, c'est absolument incroyable. Et du côté du centre de l'île, centre-sud et île de Montréal, eux, ils ont créé un algorithme de gestion des cas confirmés, des personnes symptomatiques et de leurs contacts domiciliaires. Écoute, je sais pas, les 12 travaux d'Astérix, ça, c'était de la petite bière, ceux amis, là. Mais c'est assez fascinant quand même. Hein. Toutes les organisations que sont les CIUS et les centres de services scolaires avaient juste à copier la note, la consigne du gouvernement, puis la distribuer aux parents.
Mais oui, non, mais tu oublies une chose, Nathalie, par exemple, parce qu'un enfant qui tousse à Gaspé, c'est pas comme un enfant qui tousse à Bel-Oeil. Fait que c'est pour ça qu'il faut ajuster toutes les normes en fonction de la géographie.
Non, mais c'est fou! Fou braque, cette affaire-là. Oui, ouais. C'est aussi con que ça, t'as bien raison. Heureusement que le ridicule ne tue pas. La Chine qui assure le Canada, qui accuse le Canada d'avoir envoyé par la poste le variant Omicron. Vous avez peut-être entendu cette nouvelle. Moi, je n'en revenais pas. Il y a un seul cas d'Omicron, il semblerait, sur le territoire chinois, détecté à Pékin. Et les autorités chinoises ont imputé la faute au Canada. Je disais la nouvelle, je me disais, du délire à l'état pur. En fait, un excellent sujet pour le prochain James Bond. Une épine de moins dans le pied du gouvernement du Québec. Il n'y aura pas de stade de baseball à Montréal, ni de baseball. Au rail, Youpi va pouvoir continuer d'amuser les spectateurs du Centre Bell. Mais j'ai dit que c'est une épingle de moins dans le pied du gouvernement du Québec parce que c'est un dossier quand même effectivement assez épineux. On voulait un stade, puis on en sentait qu'au gouvernement, il y a des ministres et des premiers ministres là, avec certains de ces ministres qui n'étaient pas au diapason. Enfin bref, oui, une épingle de moins dans le pied du gouvernement du Québec. Et pour moi, le chiffre de la semaine... c'est 550. Il vient d'un article publié, un texte fort intéressant de Marie-Ève Fournier. Elle a publié un article dans la presse le 16 janvier dernier, un article qui m'a renversée. Elle relate l'histoire d'une dame de 85 ans qui vit dans une résidence privée et qui doit payer, tenez-vous bien, 550 $ par mois pour manger sa petite soupe le soir. Cette dame, donc, qui parce qu'elle mange juste une petite soupe, doit quand même payer la table d'hôte qui est à 18,50. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas exploiter nos aînés, là. Ça, je me demande bien ce que c'est. Faites le calcul, là, 550 x 12, là, ça fait quoi? 6 660 $ par année pour manger une petite soupe à tous les soirs. Et pendant ce temps-là, cette pauvre dame ne peut pas se payer d'autres services parce que une grande partie de son budget est consacrée à payer sa petite soupe. Alors, bravo à Marie-Ève Fournier. C'est une histoire qui fait énormément réfléchir. Des fois, on se dit, coudon, les résidences privées, là, les résidences luxueuses privées pour aînés, là, c'est beau tout ça, là. Mais honnêtement, il y a des abus. Puis je ne sais pas comment un jour on va finir par, au-delà de la dénonciation, ce qu'on peut imaginer une espèce de forme de contrôle. Je pense que ça serait tout à fait judicieux de pouvoir se pencher là-dessus.
Monsieur Ferrandez, avant de sauter sur votre menu, j'aimerais entendre votre réaction à l'échec du projet baseball.
Écoute, moi, sérieusement, là, humainement, je suis triste pour Monsieur Bronfman. Je me dis, ils ont fait des efforts extraordinaires, puis ils étaient de bonne foi. Mais évidemment, je suis content pour Montréal parce que j'ai toujours pensé que ce site-là, c'est un site extraordinaire que, par lui-même, qui n'avait pas besoin du baseball pour être animé. Et d'ailleurs, il y a une responsabilité à la ville maintenant de bien le développer. Il ne faut pas attendre le prochain promoteur qui va proposer une empilade de condos. Il faut, puis des mots creux, tu sais, sur la réinvention de l'art de vivre en ville, tu sais, phase 1, phase 2, veuillez vivre pleinement, puis avec un rayon de soleil, puis tout, puis après ça, une empilade de condos pas possible. Non, non, ce qu'on a besoin, c'est de l'intelligence émotionnelle, de la compréhension de la ville, des vues vers le Vieux-Montréal, des espaces de marche et de randonnée qui permettent une extension du Vieux-Montréal vers les bassins Peel, puis une connexion vers Pointe-Saint-Charles. Il faut que la ville se mette au travail maintenant.
Votre rapport, monsieur le commissaire.
D'abord, je voulais savoir, pour la madame de la soupe, c'est-tu 40$ pour ses biscuits soda?
Hey, c'est épouvantable.
Non, mais c'est bon parce que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu veux avoir un plat, il faut que tu payes pour l'ensemble des plats. Fait que ça n'a pas d'allure.
Ouais. C'est pas le genre à se bourrer dans le dessert. Non,
non plus, je pense pas, non.
Karim Ouellet, ben trop jeune pour mourir.
Oui, hein? Oui.
Trop souriant, trop sensible, trop jeune, puis trop bon pour mourir. Il y a un muraliste qui s'appelle Monk.e. Ça, quand tu le lis vite, ça fait Monkey. Qui a fait une murale à son effigie à Dakar, parce que au Sénégal, puis il l'a fait avec une couronne du petit roi, tu sais, qui était un peu en suspension sur sa tête. Là, puis je trouve que ça représente vraiment le bonhomme. Je trouve Salut, Karim. Là. Ciao. Le ministre de la déforestation et de l'indifférence à la faune.
Ah, un autre de tes préférés, ça.
Il frappe encore.
Je note que ça fait quand même un petit bout qu'il n'en a pas parlé. Là.
Hey, moi, écoute, les poils me redressent ses bras. Tu parles du ministre de la déforestation. Moi, qui ai déjà été ministre responsable de la forêt québécoise, j'écoute. J'en ris, mon cher Luc, mais
ben,
tu me mets, mets dans tous mes états.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Arrête. Moi, je dis aux gens, attachez-vous à vos arbustes là, parce qu'ils s'en viennent dans le sud. Là. Ils descendent dans le sud. Parce que, regarde, là, on est à Saint-Marc, attends, Saint-Mathieu-du-Parc. Il y avait des citoyens qui voulaient garder un espace naturel, une forêt. Et puis, ils vont commencer à la bûcher, raser cet hiver. C'est ça, tu sais, c'est des forêts anciennes, puis c'est des forêts anciennes dans lesquelles la faune est particulièrement riche. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on coupe des forêts aménagées, tu sais, qu'on coupe des forêts parce qu'on a fait pousser les arbres pour les couper. Puis après ça, une fois qu'on les a coupées, on les replante, puis etc. Puis qu'on prenne des grands espaces pour faire ça, d'accord. Mais pas les forêts anciennes. Et d'ailleurs, dans les forêts anciennes, en coupant les forêts anciennes, il se passe quoi? Il se passe que les caribous sont en danger. Mais là, ils ont trouvé la solution. La solution, c'est qu'ils vont les mettre dans des enclos. Vous avez vu ça? C'est même pas une joke.
Oui, non, je sais. Oui. Pour leur bien.
Ben oui.
Pour les protéger.
Moi, je dirais.
C'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça.
Ben non, c'est
on
parce
rit,
que
mais c'est peut-être ça.
Non, malheureusement pas. Il y a plusieurs biologistes qui se sont prononcés sur l'affaire puis qui ont dit une fois que c'est un mouroir, c'est-à-dire si tu les amènes là, après ça quand tu vas les faire ressortir de là, ils vont se faire bouffer tout cru parce que le problème quand tu rases une forêt ancienne, ça donne plus d'espace pour les prédateurs, les loups, les coyotes, etc. Et là ils deviennent des proies presque parfaites. Et il paraît que les animaux qui naissent en enclos ont une sorte de naïveté, c'est-à-dire qu'ils se méfient pas des prédateurs. Et c'est quasiment un buffet, là. Et moi, je dirais au ministre Dufour, Monsieur Dufour, laissez faire les enclos. On passe directement, on va les empailler, puis on va les mettre dans le village du Père Noël. Ça va donner un petit air nordique au village du Père Noël. Parce que tant qu'à les mettre en enclos, l'idée même de la préservation de la faune, c'est la préservation de la faune dans son habitat. Parce que quand tu préserves une grenouille, tu préserves pas juste la grenouille, tu préserves l'habitat de la grenouille. C'est pareil avec le caribou, c'est pareil avec la baleine, c'est pareil. Les baleines, là, regarde, on remplit le stade olympique, on va faire un bel aquarium, on va les mettre dedans, ils vont être protégés. Mais c'est pas ça l'idée. En tout cas.
Mais c'est complexe la question du caribou, là. C'est complexe.
Oui, je sais bien. Je sais bien que je résume à grands traits, mais j'exprime l'idée selon laquelle cette propension du ministère de considérer la faune quasiment comme une nuisance dans ce cas-là, dire oui, ben, tu sais, il en restait 7 à Val-d'Or quand ils ont décidé d'agir, là. Ben, cette idée-là, ça s'appelle quand même le ministère de la faune. Il y a le mot faune dans le ministère, là. Et ça agit comme un ministère de la forêt. Bon. Autre chose, ceux qui se sont procurés des faux passeports vaccinaux, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites des trous dans vos condoms? Parce que refuser de vous faire vacciner, c'est votre droit. Au Québec, c'est votre droit. Vous avez le droit de dire « je ne me fais pas vacciner ». C'est correct. Mais côtoyer ceux qui pensent que c'est essentiel de l'être, ce n'est pas votre droit. Vous qui êtes tellement attaché à vos choix, vous dites « c'est mon choix », pourquoi est-ce que vous avez considéré que le choix des autres n'avait pas d'importance? C'est ça la question. Vous avez dit « moi, je ne veux pas me faire vacciner, je vais m'asseoir à côté de quelqu'un qui ne veut pas être assis à côté de quelqu'un qui n'est pas vacciné parce que son choix n'a pas d'importance, le mien en a. » Allez vous faire foutre.
C'est du grand Luc Ferrandez. Hein?
Il me semble qu'il tresse un item, là, les logements sociaux.
Ah, j'en ai plein d'autres.
Non, un dernier. Parce que, oui.
À travers le Québec, mais l'exemple était donné pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 700 logements sociaux qui sont HLM qui sont vides, essentiellement parce que, et c'est des logements en très bon état, parce que le plafond pour une personne seule, le plafond de revenus que tu peux avoir gagné pour occuper un logement social, c'est 21 000 $. Et comme c'est interdit de gagner plus pour être dans un logement social, il n'y a pas assez de pauvres dans certaines régions pour aller les occuper. C'est quand même le bout de tout, ça.
Ils peuvent pas changer les critères, par exemple.
Oui. Soit tu changes les critères, soit tu en construis plus là où il y a plus de pauvres, un des deux, mais 700, ça commence à faire beaucoup.
Merci, cher commissaire. Passez un beau week-end, puis on va trouver évidemment lundi.
C'est 23.